Il est 8h en temps universel, 10h à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue à Abidjan. Vous avez la parole dans 10 minutes. Émission spéciale consacrée à la présidentielle du mois d'octobre en Côte d'Ivoire. Le scrutin sera-t-il apaisé? Mais d'abord le journal international à Paris. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Annoncé, retoqué, rétabli, mais provisoirement seulement. On ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Concernant l'avenir des droits de douane américains, la justice des États-Unis s'en mêle, mais ne parle pas d'une même voix. On fait le point dès le début de ce journal. Dans cette édition également, le Hamas qui menace de ne pas accepter le plan de cessez-le-feu à Gaza proposé par les États-Unis. Le ministre chinois de la Défense qui boude le Shangri-La Dialogue, le plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie. Il s'ouvre aujourd'hui à Singapour. On va parler aussi de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a un nouveau président, la personne de Sidi Oulta, ex-ministre mauritanien de l'économie. Et puis avant la finale de la Ligue des champions de football demain, ce triste anniversaire hier en Belgique, 40 ans après la catastrophe du Heysel, du nom du grand stade de Bruxelles qui accueillait la finale en 1985. Une bousculade avait coûté la vie à 39 personnes avant le coup d'envoi. Si elle était maintenue, cette décision détruirait complètement le pouvoir présidentiel, regrette Donald Trump. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État américain est revenu sur cet ultimatum donné mercredi par les magistrats du Tribunal de commerce international des États-Unis. 10 jours pour faire marche arrière sur les droits de douane imposés par Washington à plusieurs pays. Des surtaxes suspendues en attendant. Horrible, des juges gauchistes, s'est ému Donald Trump, qui a obtenu un petit sursis cette fois de la part d'une cour d'appel qui a suspendu cette décision précédente. On refait le fil depuis New York avec Loubna Naki.
En l'espace de 24 heures, les décisions de la justice américaine sur les taxes douanières ont donné le tournis aux acteurs de l'économie américaine et mondiale. D'abord, 3 juges du Tribunal de commerce international des États-Unis ont estimé que Donald Trump n'avait pas le pouvoir d'instaurer de tels droits de douane en utilisant une loi d'urgence nationale datant de 1977. La Maison-Blanche a aussitôt fait appel et hier, un juge fédéral a décidé de réinstaurer temporairement ces droits de douane le temps d'étudier le dossier. La porte-parole de la Maison-Blanche a vivement critiqué les 3 juges du Tribunal de commerce international des États-Unis, les accusant d'outrepasser leurs droits et d'agir, je cite, « comme des activistes contre le président ». Cette affaire pourrait finir devant la Cour suprême, Donald Trump étant déterminé à maintenir ce dispositif qu'il voit comme une stratégie de négociation et un moyen d'obtenir des accords commerciaux plus avantageux. D'ailleurs, s'il n'obtient pas gain de cause, il dispose d'autres moyens légaux pour imposer des taxes douanières, des procédures qui prennent tout de même des mois, ce qui va à l'encontre de la stratégie du président américain. Loubna Naki, New York, RFI.
Il est temps d'entrer avec toute la force nécessaire dans la bande de Gaza pour détruire et tuer entièrement le Hamas. Déclaration ce matin du ministre israélien d'extrême droite de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Plus d'excuses, dit-il sur sa chaîne Telegram, en s'adressant directement au premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant que le Hamas a rejeté, je cite, une nouvelle fois la proposition d'accord acceptée par Israël, une proposition de cessez-le-feu américaine qui dans les faits n'a pas encore été réellement refusée par le Hamas, mais elle ne répond à aucune des demandes de notre peuple, selon un responsable du mouvement interrogé par l'agence France Presse. Ce nouveau plan américain prévoit notamment, selon des sources citées par les médias israéliens, une trêve de 60 jours ainsi que la libération immédiate de la moitié des otages présumés toujours vivants dans la bande de Gaza. La Turquie optimiste sur le fond, la Russie et l'Ukraine souhaitent un cessez-le-feu et doivent maintenant exprimer leur position de négociation. Reste la forme, de nouveau pourparlers à Istanbul proposé par la Russie. L'Ukraine se dit disposée à y participer, mais elle veut d'abord recevoir un document qui regrouperait toutes les conditions exigées par le Kremlin. Pour Emmanuel Macron, les États-Unis sont face à un test de crédibilité et doivent s'engager à sanctionner Moscou si la Russie, je cite, confirme ne pas être prête à faire la paix. Le président français qui s'exprimait depuis Singapour, où il met un point final à sa visite, à sa tournée en Asie du Sud-Est. Il doit notamment, et c'est une première pour un dirigeant européen, prononcer le discours d'ouverture du Shangri-La Dialogue, le plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie. Un forum, et là aussi c'est une première cette fois depuis 2019, sans la Chine qui a décidé de ne pas envoyer son ministre de la Défense, Dong Jun. Son homologue américain, Pete Hegseth, lui, y sera. Pékin préfère dépêcher sur place une délégation de l'Université nationale de défense de l'Armée populaire de libération. c'est-à-dire un niveau bien inférieur, correspondance à Pékin de Cléa Broadhurst.
Cette absence empêche une rencontre directe entre les deux puissances à un moment où les tensions restent vives malgré une trêve tarifaire conclue ce mois-ci. Officiellement, Pékin dit rester ouvert au dialogue militaire à différents niveaux, mais le geste est perçu comme une prise de distance stratégique. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce choix. D'abord, la relation sino-américaine se tend à nouveau. Washington a annoncé des restrictions de visa pour les étudiants chinois et des limitations sur l'exportation de technologies sensibles comme les puces et les moteurs d'avion. Autre élément, la situation interne. Dong Jun a été nommé en 2023 en pleine purge anticorruption et il n'a pas été intégré à la puissante commission militaire centrale, un signe de poids politique limité. Et enfin, Pékin mise désormais sur son propre forum, le Xiangshan, jugé plus favorable que le Shangri-La, souvent perçu comme trop critique sur des sujets sensibles comme Taïwan ou la mer de Chine. Plutôt que de relancer un dialogue précipité avec Washington, la Chine aujourd'hui mise plutôt sur le long terme, renforcer ses alliances hors du bloc occidental, développer de nouveaux marchés et sécuriser ses propres chaînes d'approvisionnement. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Il aura fallu attendre 3 tours de scrutin à Abidjan hier à l'assemblée annuelle de la BAD, la Banque africaine de développement, mais finalement, elle a un nouveau président, le mauritanien Sidi Ouldeta, ancien ministre de l'économie dans son pays. Il entamera en septembre un mandat de 5 ans à la tête de la BAD. Sidi Ouldeta était l'invité de Bruno Faure il y a 3 semaines sur RFI et il s'était engagé à mettre en place des mécanismes pour venir en aide aux jeunes du continent.
Les micro, petites et moyennes entreprises représentent aujourd'hui plus de 90% des tissus économiques en Afrique. Et pour la plupart, elles sont dans le secteur informel. Et même celles qui sont dans le secteur informel n'ont pas accès au financement. Il n'y a que 20% des SMI formels qui ont accès au financement. Mon ambition, c'est de créer une agence africaine de garantie. Cette agence va avoir un double rôle. D'abord, elle va aider les petites et moyennes entreprises à bénéficier des financements sans pour autant avoir à présenter des sûretés réelles ou des cautions aux banques.
Parce que c'est une vraie difficulté.
C'est souvent un grand frein aujourd'hui pour le financement des petites et moyennes entreprises.
Souvent, les banques sont
et
trop frileuses.
On pourrait travailler avec l'intelligence artificielle qui donne aujourd'hui des opportunités importantes. Donc, je pense que la jeunesse africaine, si on renforce l'éducation, l'enseignement des sciences, des techniques et des métiers dont l'économie a besoin et qu'on ouvre l'opportunité pour les petites et moyennes entreprises d'avoir accès au financement, d'avoir accès au renforcement des capacités et d'avoir accès au marché, je pense que le continent va connaître un essor considérable qui va permettre de créer les 20 millions d'emplois dont on a besoin.
Sidi Ouldeta, nouveau président de la BAD, interrogé il y a 3 semaines par Bruno Faure. C'est énorme, reconnaît le préfet de police de Paris dans une interview accordée à nos confrères du Parisien. Il annonce que 5400 policiers et gendarmes seront déployés demain dans la capitale française et son agglomération pour éviter tout débordement à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de football. Alors, elle ne se joue pas en France, mais à Munich. Mais le Paris Saint-Germain est en lice pour le titre. Ce sera face à l'Inter Milan. Et alors que l'on attend de connaître le vainqueur de l'édition 2025, on se souvient de la finale de 1985. Ça fait 40 ans, ça a même fait 40 ans jour pour jour. Hier, Liverpool l'emportait face à Turin. Mais ce n'est pas ce que l'histoire retiendra, car ce jour-là, la catastrophe du Heysel, le nom du grand stade de Bruxelles où avait lieu le match, 39 personnes perdaient la vie dans une bousculade entre supporters anglais et italiens. À l'époque, les hooligans, l'organisation, mais aussi la vétusté du stade étaient pointés du doigt. Eh bien, 40 ans plus tard, malgré un changement, c'est vrai, de nom, désormais stade Roi Baudouin, eh bien, malgré aussi des travaux d'ampleur, la vétusté de l'enceinte reste un sujet de préoccupation, Elena Loison.
Oui, la liste des travaux est longue et ne cesse de s'agrandir. Les pylônes sont rongés par la rouille et ne répondent pas aux normes pour les retransmissions télévisées, tout comme les grillages anti-envahissement de terrain ou encore le toit qui ne retient plus l'eau. Résultat, à chaque averse, la pluie tombe sur la pelouse, stagne et détruit le terrain à petit feu, à tel point qu'il y a 1 an et demi, l'équipe nationale de foot avait dû jouer son match à Louvain en catastrophe pour cause de terrain impraticable. Cela fait plus de 10 ans que le sujet du stade occupe les esprits politiques. Sa démolition est un serpent de mer. On a un temps évoqué la construction d'une nouvelle enceinte, à l'époque saluée avec soulagement par Eden Hazard, la star des Diables Rouges.
Pas que pour le football, mais pour le sport belge en général. Je pense qu'on se doit d'avoir un nouveau stade, et pas que pour les joueurs, pas que pour les athlètes, pour les fans aussi.
La mairie de Bruxelles refuse d'engager seule les travaux, estimés à près de 220 millions d'euros. Du côté de la Fédération belge de football, le désengagement est de plus en plus clair. À partir du mois de septembre, les Diables Rouges devraient jouer leur rencontre dans les divers stades de Belgique et déserter pour au moins quelques temps le stade Roi Baudouin. Hélène Loison, Bruxelles, RFI.
Et à Bruxelles comme à Paris, il est 10h10. Vous avez rendez-vous avec Juan Gomez à Abidjan ce matin pour un numéro spécial d'appel sur l'actualité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.